Parler du nucléaire n'est pas chose facile. La discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures? Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponche peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Je reprends mes bonnes vieilles habitudes, je suis chez Bernard avec Bernard et nous allons faire un petit épisode sur l'histoire du monde nucléaire et nous allons revenir en quelle année, je n'en sais rien, c'est pour ça que je suis venu pour parler du fameux plan Messmer. On vient de manger un petit pain au chocolat, ça sera donc pain au chocolat et Messmer. Quel est donc ce plan Messmer, mon cher Bernard ?
Ah, il faut faire un peu d'histoire pour arriver à comprendre cette question du plan Messmer. Très rapidement, bon, à partir de 1945 avec le général de Gaulle et la création qui a créé le commissariat à l'énergie atomique, la France s'est lancée très officiellement sur le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et à des fins pacifiques. Le militaire, le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, a été confié à Frédéric Joliot-Curie, qui était un grand physicien, qui avait d'ailleurs découvert beaucoup de choses, et en particulier concernant la fission de l'atome et la possibilité de réussir une réaction en chaîne. Et donc, il avait même pris des brevets à la fois sur la possibilité d'avoir des réacteurs pour la production d'énergie et d'électricité, et même la bombe. Et il se trouve qu'à la fin de la guerre, après cette création, Frédéric Joliot-Curie s'est opposé aux applications militaires, il était contre le développement de la bombe, avec l'appel de Stockholm, etc. Et donc il a été mis de côté, alors qu'il avait démarré, construit avec ses collègues, la première pile qui était, le premier réacteur nucléaire français qui était la pile Zoé, qui était dans le système avec l'eau lourde, il a été évincé et après le paquet a été mis sur les applications militaires qui ont abouti à la construction de petits réacteurs à Marcoule, G1, G2, G3, de la filière, la même que le premier réacteur qui avait démarré en 1942 aux États-Unis, la filière uranium naturel graphite gaz, c'est-à-dire que le combustible, c'est de l'uranium naturel qu'on trouvait en France. Le graphite, bon, c'est charbon, on peut en trouver assez facilement. Et le gaz, c'était du gaz carbonique. Donc on a pu faire fonctionner ces réacteurs. Et après, on a retraité ces combustibles irradiés de ces réacteurs pour produire du plutonium. Et ce qui permettait de développer la bombe atomique. Alors, au parallèle, les études sur le nucléaire civil se sont poursuivies, et en particulier avec la même filière. Et donc, dans les années 60, on a développé les premiers réacteurs à uranium naturel graphite gaz pour la production d'électricité. Et ça a été des réacteurs dans les centrales de Chinon, trois réacteurs, Chinon 1, Chinon 2, Chinon 3, Saint-Laurent 1 et Saint-Laurent 2, et Bugey 1, donc 6 réacteurs qui ont été construits dans les années 60 et qui constituaient ce qu'on a appelé la filière uranium graphite gaz, mais aussi la filière française et aussi la filière de Gaulle, parce que c'est de Gaulle qui avait donc poussé à ce développement. Et on arrive à la fin des années 60 où ce programme de cette filière, de ces réacteurs, doit se continuer, et en particulier avec la construction de deux réacteurs à Fessenheim. On est en 69, De Gaulle perd son référendum, démissionne, et meurt peu de temps après, et est donc remplacé par un gouvernement, bon, Pompidou président, et personnage important, le Giscard d'Estaing. Et là, il y a une offensive très intéressante, si je puis dire, de changer ce programme nucléaire, d'arrêter la construction de réacteurs à uranium naturel graphite gaz, et de choisir les filières, ce qu'on appelle américaines, c'est-à-dire les filières à uranium enrichi et eau, soit l'eau sous pression, c'est la filière portée essentiellement par Westinghouse aux États-Unis, soit l'eau bouillante portée par General Electric aux États-Unis. Alors il y avait déjà eu la construction d'un petit réacteur de 250 MW à chaud PWR, c'est-à-dire uranium enrichi et eau sous pression, mais c'était rediscuté donc en 69-70 sur le choix de ces réacteurs. Ce choix était très poussé par EDF et son directeur général, Marcel Boiteux en particulier. Pour des raisons mises en avant, c'était de se rendre compte que la filière graphite-gaz n'avait pas beaucoup de futur, disons, au niveau international, alors que les filières américaines se développaient énormément un peu partout dans le monde pendant les années 60. Donc il y avait l'idée de se raccrocher aux vainqueurs. On peut dire ça comme ça. D'autre part, l'EDF était fatigué, disons, de la maîtrise du CEA sur les réacteurs graphite gaz et voulait se débarrasser du CEA. Il y avait toujours une rivalité entre les deux organismes. Et troisièmement, il y avait une poussée pro-américaine au niveau politique, en particulier avec Pompidou, Giscard. Et finalement, il y a eu donc le choix de changer de filière, mais cette filière à eau, et uranium enrichi, d'abord de faire deux réacteurs sous pression, deux réacteurs bouillants. Finalement, l'arbitrage s'est fait en France entre le couple d'un côté Schneider-Westinghouse, qui était pour les pressuriser, et le couple General Electric et Compagnie Générale d'Électricité en France, qui était pour les bouillants. Finalement, il n'y a eu arbitrage que les pressurisés. Et donc, on a lancé la construction de deux réacteurs à Fessenheim et deux réacteurs à Bugey. Donc, c'était quand même un événement important, puisque au CEA, ça a été ressenti un peu comme une défaite assez, assez rude, puisque la filière qu'il avait portée a été abandonnée. Et il y a eu d'ailleurs des réductions d'effectifs, en particulier à Marcoule, etc. Donc, ça a été une crise assez forte de ce côté-là. EDF s'est lancé donc sur la construction de ces réacteurs, et donc au rythme qui était prévu de deux par an. Arrive la guerre qui pourra en 73-74, la crise pétrolière, les pays de l'OPEP qui augmentent les prix du pétrole, la crise pétrolière de 73-74. Évidemment, alors tout le monde se dit, bon, mais il faut faire quelque chose. On verra que c'est à peu près ce qui a été dit à l'époque se reproduit aujourd'hui, dans des conditions un peu différentes, mais enfin toujours le même discours. Panique à bord, l'indépendance énergétique. Nous dépendons terriblement du pétrole, donc il faut faire quelque chose. Alors, on dépendait du pétrole, comme tout le monde d'ailleurs, surtout le plus c'était les transports, hein, puisque l'essence, etc. Mais l'EDF, pour des raisons économiques, qui avait un parc de centrales à l'époque, les centrales hydrauliques et les centrales à charbon, mais qui était passé au fioul lourd. On avait remplacé pas mal de centrales à charbon par les centrales au fioul lourd. Donc on était très dépendant du prix du pétrole. Et donc EDF a saisi cette occasion pour dire que, bien évidemment, il fallait absolument mettre le paquet sur le nucléaire. Et comme l'ensemble du gouvernement depuis De Gaulle, ça n'avait pas changé, était pro-nucléaire, ça a été une offensive mais colossale des milieux économiques, des milieux politiques, des milieux industriels pour pousser le nucléaire à une extrémité telle que la décision a été prise, Messmer étant ministre à l'époque, premier ministre, de construire 6 réacteurs par an. Ce qui s'est passé dans des conditions assez comiques, on pourrait dire, ce qui montre la façon dont l'État fonctionne, c'est que donc, il y avait cette offensive, d'accord, et puis Marcel Boiteux, donc, qui était le directeur général d'EDF et l'homme puissant de cette période, Sirota dit c'est l'homme qui a coûté le plus cher à la France pendant les 20 dernières années.
C'est qui a dit ça?
Sirota, qui était directeur général de l'énergie un peu plus tard. Et donc, Boiteux raconte que, donc, un samedi donc, de 1974, il reçoit un coup de fil du directeur général de l'énergie, Couture, Corps des Mines, tout ça, hein, pas Boiteux, mais Couture, qui lui dit, écoute, je pense qu'il se tutoyait, Marcel, il s'appelle Marcel Boiteux, voilà, il faudrait que tu me dises combien vous pouvez construire de réacteurs par an, parce qu'on va faire une annonce pour renforcer le programme nucléaire, c'est très important, oui, c'est très important, et il l'appelle à 11h du matin, le samedi matin. Et Boiteux lui dit, bon, ben écoute, oui, ça nous intéresse beaucoup, je vais consulter mes directeurs, quand est-ce qu'il te faut la réponse? Et l'autre lui dit, ben à 13h. Bon, alors Boiteux raconte qu'il appelle ces deux ou trois, il n'en appelle pas 36. Et ils discutent, etc. Alors, ils disent, ce qui est déjà extraordinaire, le patron technique dit, ben, on doit pouvoir, là ils étaient sur le rythme de deux par an. Donc il dit, oh, bon, 3 ou 4 par an, ça serait pas mal. Bon, ça double le programme, et puis quand même, réussir à construire 4 par an. Et... Alors Boiteux dit, bon, donc 4 par an, ça serait bien. Bon, si je demande 6, le ministère des Finances va hurler, donc on aura 3 ou 4. Donc ça va. Il rappelle son copain Couture, et lui dit, 6 réacteurs. Bon, et puis voilà, bon, il attend les... Il attend, et le lundi, je ne sais pas qui le rappelle, Couture sans doute, en lui disant, mais la décision est prise, 6 par an. Bon, alors cette décision prise 6 par an était justifiée de quelle façon? Comme d'habitude, par le fait que j'ai les documents de l'époque, je peux les montrer à qui voudra, l'EDF et le CEA, sur ce point-là, étaient d'accord, pour dire que, bien entendu, la consommation d'électricité allait augmenter de façon considérable. C'était même à l'époque, c'est la loi, entre guillemets, du doublement tous les 10 ans. Parce que pendant quelques années, des années 60, effectivement, il y avait eu une augmentation exponentielle. Je trouve que c'était ridicule. Moi, j'avais déjà travaillé sur ces questions. D'ailleurs, cette histoire d'exponentielle, c'était déjà une blague. Mais en tout cas, il prenait une exponentielle. Et on était à peu près à 175 milliards de kilowattheures en 75. À peu près, c'est facile de se rappeler. Et donc, doublement tous les 10 ans, ça voulait dire qu'il fallait 1000 milliards de kilowattheures en 2000. Pour passer de 175 à 1000, il fallait construire 825. Et 825, bon, donc, 6 par an. Alors déjà, nous, c'était d'une part moi et la CFDT et les économistes de Grenoble, dont Bertrand Chateau, et y compris M. Sirota, que j'ai déjà cité, qui disait, écoutez, c'est invraisemblable vos prévisions de production d'électricité. D'abord parce que la première effort à faire par rapport à une crise énergétique, c'est des économies d'énergie. Et d'ailleurs, on avait créé en 1974 l'Agence pour les économies d'énergie. Donc, il y avait quand même une idée là-dessus. Et de dire, ben, écoutez, ça ne tient pas vos prévisions. Non. D'ailleurs, donc, il fallait atteindre 1000 milliards de kilowattheures. Et la réalité, ça a été 450.
C'est pas pareil.
Non. Et quand nous, on disait que c'était sûrement pas à 1000, on était loin de dire qu'à 450. On disait, arrêtez vos conneries, c'est beaucoup moins. Et moi, j'ai d'ailleurs passé ma thèse de docteur en économie de l'énergie sur le thème de la prospective. Et cette thèse portait sur le fait que toutes les prévisions qui étaient faites par d'autres que les prévisions gouvernementales étaient nettement en dessous. Et que donc, on pouvait se poser des questions sur cette prospective. Alors, le CEA, où j'étais, dans les années 70, j'ai fait pas mal de choses, mais j'étais au CEA sur la prospective, a demandé que je passe ma thèse, mais à titre personnel, que ça n'engage pas le CEA, pour te dire l'ambiance. Enfin, toujours est-il, pour revenir au plan Messmer, c'est ça, c'est-à-dire que discuter, alors, 6 par an, je crois même 7, 15 les deux premières années, puis 6 par an, ce qui, d'un côté, était énorme, de l'autre côté, était extrêmement cher. Ce programme a drainé les capacités françaises d'investissement. C'est-à-dire beaucoup de gens, dont Bertrand Chateau, considèrent que ça a empêché, ça a drainé d'utiliser cette épargne pour développer l'ensemble des questions industrielles ou des transports, par exemple, etc. Ça a drainé trop d'argent sur le nucléaire alors qu'on n'en avait pas besoin. Et ça appauvrit, en fait, l'économie française ou l'industrie française. Et on fait tout ça, et en parallèle, parce qu'il y avait la pression du CEA, qui avait été quand même très meurtri de cette défaite, on peut dire le mot, avait obtenu, après avoir lancé un premier programme de surgénérateurs avec le Rhapsody puis Phoenix, la construction de Super Phoenix, un énorme réacteur de 1300 MW, 1200 ou 1300 MW, surgénérateur qui était un peu la récompense donnée au CEA, qui était le père des surgénérateurs. Parce que le patron du CEA, André Giraud, qui était major de Polytechnique, était très respecté par M. Giscard d'Estaing, qui était quand même l'âme damnée de ce programme pro-nucléaire américain, parce qu'il était très lié au groupe Schneider, etc. Et que M. Armand, grand français, était président de Westinghouse Europe. Donc, toute cette histoire est une histoire assez mafieuse, comme d'habitude, mais
de copinage,
de compagnie, de famille, enfin, des tas de choses comme ça. Le baron Ampin, qui était Schneider, etc. Enfin, toujours est-il que EDF a réussi la construction de ses réacteurs, ce qui est extraordinaire. Quand on voit aujourd'hui les déboires de l'EPR et d'ailleurs du parc actuel, et que dans les années 70, à un moment, il y avait de l'ordre probablement de 20 chantiers.
Oui, parce que quand tu en lances 6 voilà. par an, au bout de 3 ans, tu en as 18 en construction.
Voilà. C'est extraordinaire.
Okay. Et là, ils n'arrivent pas à en finir un.
Et maintenant, non. Donc, les temps ont changé. Ouais. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont réussi. Ouais. Mais, très vite, on s'est aperçu que, bof, quand même, il y en avait beaucoup. Et nous, on avait dit, mais attendez, 6 par an, c'est invraisemblable.
Alors, quand tu dis nous, c'est qui ?
La CFDT. La CFDT, essentiellement, parce que c'était... Moi, j'étais dans la commission... J'étais en tant que CFDT, la commission énergie du plan, où on pouvait défendre des positions opposées à cette affaire.
Et CFDT, alors, CFDT, CEA, toi, hein, c'est ça ?
Non, non, j'étais CEA, et après, j'étais CFDT général, confédéral.
Ok.
Et donc, on dit, écoutez, 6 par an, c'est beaucoup. Ah oui, mais rassurez-vous, c'est 6 par an pour la France, pour les besoins français. Parce que vraiment, là, il faut répondre à la crise pétrolière de façon immédiate, remplacer les centrales à fioul par les centrales nucléaires. 6 par an pour la France. Et après, l'année suivante, ça sera, 2 années suivantes, ça sera 4 pour la France et 2 pour l'exportation. Et après, 2 pour la France et 4 pour l'exportation. Donc on maintient une production de 6 par an, mais on se fait du blé, un blé colossal en vendant des réacteurs qui, bien sûr, vont être achetés. Alors en 40 ans, on a vendu 8 réacteurs. Voilà. Donc échec double échec de cette politique, de cette stratégie Messmer, qu'on paye aujourd'hui. Premier échec, on en a fait beaucoup trop par rapport aux besoins français. Donc le rythme pro-nucléaire de 2 par an était tout à fait raisonnable. Pour arriver à une proportion à peu près de 50% du parc alimenté par le nucléaire. Et pourquoi 50%? Parce que ça représente à peu près la base, c'est-à-dire ce qui fonctionne tout au long de l'année. Et le nucléaire est fait pour ça. Il est fait pour fonctionner en base. À partir du moment où on n'a pas exporté d'électricité, donc cette électricité est arrivée sur le réseau français, on a été amené dès le début des années 80 d'exporter. Et l'exportation de nucléaire ne présente strictement aucun intérêt, parce qu'on a investi des sommes considérables, on vend le courant pas cher, parce que les voisins savent très bien qu'on est obligé de le vendre, puisqu'il faut fonctionner, et on garde le risque d'accident et les déchets. Donc l'exportation de nucléaire ne présente strictement aucun intérêt. Mais on a été obligé. En plus, pour absorber le maximum de cette production d'électricité, EDF a mis le paquet sur le chauffage électrique. Manque de bol, le chauffage électrique ne fonctionne pas, justement, en base. On n'a pas besoin toute l'année de chauffage électrique. Donc, on a créé une pointe, c'est-à-dire, curieusement, on consomme, on a besoin de chauffage quand il fait froid. C'est une découverte extraordinaire, qui mérite le prix Nobel. Et alors, quand il fait froid, donc les gens branchent leur radiateur électrique, surtout que EDF vendait, même donnait, des réacteurs électriques à résistance. Voilà, bon. Et alors, les gens branchent. Donc, ça fait un appel de consommation d'électricité. Tout d'un coup, zoup. Et on met tout ce qu'on a de nucléaire, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il n'est quand même pas conçu pour cette pointe, là-haut. On appelle ça la pointe. Et donc, à ce moment-là, on tremble chaque année, depuis l'époque. On tremble en disant, est-ce qu'on va passer la pointe? Et chaque année, angoisse. Et puis finalement, en mettant toutes les centrales nucléaires, quand elles sont toutes capables de marcher, plus les centrales associées, plus les centrales à cela, plus quelques importations, on passe. Mais ouf ! Et comme des imbéciles, c'est chaque année que ça se reproduit et on nous explique que le nucléaire, c'est formidable.
Donc, et à quel prix ? Parce que quand on est à la pointe, j'imagine que le kilowattheure est plus cher.
Ça dépend lequel, parce que si tu le fais avec le nucléaire, il n'est pas cher, mais si tu es obligé de faire marcher des diesels de je ne sais pas où, c'est cher. Donc en général, c'est plus cher. Ou si tu importes. Alors, on importait, d'ailleurs, en Allemagne, à ce moment-là, c'était produit par du charbon. Donc, cette stratégie lancée par le programme Messmer a bousillé le système électrique français. Avec ce surplus de production d'électricité nucléaire qui était finalement très cher, parce que je vous dis, les exportations ne payaient pas le remboursement de l'investissement. Donc elles payaient normalement la production, mais pas les investissements. Et donc on s'est retrouvé avec un parc surdimensionné. En 1983, la commission énergie du plan. Nous passons sur le fait que Mitterrand, candidat président, avait dit qu'il allait faire plein de modifications du nucléaire. En fait, il n'a rien fait du tout, mais c'est une autre histoire. Et on s'est retrouvé dans le début des années 80, où la commission énergie du plan concluait qu'il y en avait assez et qu'il fallait arrêter d'en construire, qu'on pouvait finir la construction en cours, mais ne pas se lancer dans de nouvelles aventures. Pas du tout. Et donc, c'est, du point de vue économique, enfin, à tout point de vue, c'était pas du tout. On a continué avec Mauroy, qui était un fanat pour nucléaire, mais ça a été continué. On a construit les réacteurs de 1300 MW. Et après, des réacteurs de 1500 MW. Et on est arrivé à 56, 58 réacteurs. C'était vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire, et à ce moment-là, quand même, on s'est arrêté d'en construire. Et les derniers ont démarré en 2000, les réacteurs de Civaux, là, les quatre réacteurs de 1500 MW, Civaux 1 et 2 et Chaux 1 et 2, ont démarré en 2008, 2009, 2010, 2012, enfin sur 4 ans. Et on s'est arrêté, et après allait commencer l'aventure de l'EPR, mais c'est une autre histoire.
Que nous avons déjà traité. Je reviens sur ce moment charnière de la discussion entre Boiteux et Couture, sur combien de réacteurs il vous faut. Alors je comprends la stratégie de Boiteux, quelque part vendeur de tapis, donnez-moi 6 et comme ça tu sais qu'on t'en donne 4. Qu'est-ce que ça raconte quand même de la relation du monde politique à EDF, où en fait le monde politique, quelque part, j'ai l'impression, ne réfléchit pas de son côté aux questions énergétiques, à combien il faudrait de réacteurs et tout ça, et donc va prendre pour argent comptant ce que lui dit EDF, sans le questionner, sans... Qu'est-ce que ça raconte de cette relation-là ?
Non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais aussi beaucoup plus sérieux d'une certaine façon. Tu avais un club qui s'appelait la, la commission Péon, production d'électricité d'origine nucléaire, qui échappait à tout contrôle démocratique, etc. C'était le CEA, EDF et le gouvernement. Et tout ça préparait les choses. Et donc c'est tout ça qui a décidé qu'on allait passer, au réacteur à uranium ordinaire. Et c'est-à-dire qu'il y a des rivalités, mais tout ça reste dans un cercle fermé, qui est le corps des mines. Et un morceau de corps des ponts, parce qu'à l'EDF, il y a du corps des ponts. Et donc, il y a des rivalités entre ces organismes, mais pour défendre ou promouvoir le nucléaire, ils sont tous d'accord. Et donc, l'histoire que raconte Boiteux, ces réacteurs, etc., elle est probablement exacte. Donc ça c'est de façon aussi ridicule. Mais tout ce monde-là était d'accord pour dire qu'il faut faire le maximum de nucléaire. Et ils ont convaincu le politique, comme d'habitude, parce que les conseillers du politique, ben, c'est des gens du corps des mines, et que M. Messmer, en plus, c'est l'armée, quoi. Messmer, c'est le militaire, il était Premier ministre par hasard, enfin, c'est le ministre de la Défense, etc. C'est un militaire, grosso modo. Et tout ça, donc, c'est une famille militaro-polytechnicienne, corps des mines, qui gouverne, voilà. Et donc, si tu expliquais à M. Pompidou, qui n'y connaissait rien, je veux dire, que c'était formidable, que son ministre des Finances lui disait que c'était formidable, que son ministre, Premier ministre, lui disait que c'était formidable, que ses conseillers lui disaient que c'était formidable et que vraiment la seule solution c'était ça, il n'y a aucun problème. Ce qui est frappant, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là et qui a eu des conséquences assez dramatiques finalement, se reproduit exactement aujourd'hui. C'est-à-dire à l'époque, c'était l'indépendance énergétique par rapport au pétrole. Aujourd'hui, c'est déjà l'indépendance énergétique, alors qu'on pourrait discuter, là, ça, et plus le climat. Alors là, pouf, et donc on fait avaler à peu près tout le monde exactement les mêmes choses qu'on a fait avaler il y a 50 ans. C'est-à-dire indépendance énergétique, c'est bon pour le climat, donc la consommation d'électricité va augmenter à fond la caisse. Et pour la consommation d'électricité à fond la caisse, d'accord, on va faire des économies, mais vous comprenez, les économies, c'est tellement difficile, tellement compliqué, tellement... Donc c'est des connards, quoi. C'est des menteurs, mais puissants. Voilà, les menteurs puissants, c'est terrible. Les menteurs impuissants, on peut passer, mais les menteurs puissants, c'est terrible, parce qu'ils tiennent tous les boulons, et sur des discours qui sont les mêmes, mais avec quand même, depuis, une histoire d'échec du nucléaire avec l'EPR, et avec la situation actuelle des réacteurs, les fissures, les soudures, les tout ça. Or, on a l'impression que là-haut, personne, ou ne sait, ou ne veut savoir, ou ne veut en tenir compte. Le chef a dit qu'il fallait faire plein de réacteurs nucléaires, qu'il fallait prolonger la vie des réacteurs nucléaires, qu'il fallait construire de nouveaux nucléaires, en particulier les EPR2, et on se dit, attendez, construire des EPR2 sur le modèle d'un EPR qui devait démarrer en 2012, qui ne démarrera pas en 2023, qui peut-être démarrera en 2024, mais on ne sait pas dans quelles conditions, et on n'est pas sûr qu'il soit vraiment sûr. Eh bien, ces petits arguments de bon sens sont inaudibles. Comme à l'époque, le discours... Il faut écouter le discours de Messmer. C'est le parallèle du discours de Macron. C'est extraordinaire. Et tout le monde, ouais, waouh. Alors, je dois dire qu'à l'époque, enfin, moi j'étais au milieu de tous ces trucs-là. À l'époque, le nucléaire avait plutôt bonne presse technique. Enfin, je veux dire, bon. Après, les réacteurs à graphite gaz, ils ont eu très vite des problèmes assez graves, d'ailleurs. Oui, grave même. Mais les réacteurs américains qu'on allait reproduire marchaient bien aux États-Unis. C'est-à-dire, il y avait quand même un truc assez solide. Aujourd'hui, le truc solide n'existe pas. Le truc n'est pas solide, puisque l'EPR est un échec et on a tous ces problèmes avec le parc actuel. Et y compris la question du prolongement. Donc, avec le même type d'arguments, les mêmes affirmations de la part de crétins, enfin de ministres qui n'y connaissent absolument rien, mais qui font un discours absolument enthousiasmant, eh bien, c'est très dramatique qu'il y ait superposition d'une part d'un gouvernement totalement aveugle et sourd à la réalité des choses, et d'autre côté, un parc nucléaire malade et donc dangereux. Et pour moi, actuellement, je considère qu'on est dans un état de crise très fort sur lequel personne n'apporte une réponse correcte ou acceptable. Et ça, ça fait un peu, comment on dit, flipper.
Alors, ça pourrait être le mot de la fin. En fait, j'avais envie de venir avec toi sur cette question du pourquoi. Parce que c'est vrai que quand je t'écoute, je me dis c'est quand même dingue, tous ces gens ont fait des études, ils sont pas plus bêtes que d'autres, et il y a comme quelque chose de la pensée magique, enfin il y a quelque chose d'autre qui se joue, et je pense au livre de Gabrielle Hecht, l'américaine historienne qui a fait un livre qui s'appelle « Le rayonnement de la France ». Est-ce que tu peux me parler justement de la thèse de cette historienne ? Ou pas ?
Oui, mais non, elle a raison, si tu veux, c'est que il faut bien voir que quand même la Seconde Guerre mondiale pour la France a été du point de vue de l'esprit de la nation un échec terrible, c'est-à-dire la défaite de 40, puis l'occupation, puis le régime de Pétain, et de Gaulle a eu s'est débrouillé de façon absolument extraordinaire pour faire en sorte que la France soit considérée comme l'un des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'elle avait été au premier chef le grand vaincu. Et donc, de Gaulle arrive en 1945, la France a quand même, certes, il y avait la résistance et puis des troupes françaises qui ont participé, je dirais, à la fin de la guerre, mais enfin, c'était quand même pas comparable avec l'effort des autres grands belligérants. Et il s'est dit, il faut affirmer notre puissance, et immédiatement, obsédé par, il faut la bombe atomique. Il faut la bombe atomique. D'abord, on avait les savants capables de la faire. Enfin, je veux dire, les scientifiques français, j'avais parlé de Joliot Curie, il n'y avait pas que lui, il y avait Kowarski. Enfin, il y avait toute une équipe de scientifiques français qui est tout à fait capable de faire la bombe. Et donc, pour lui, ça a été vraiment une obsession. Et ensuite, comme il voulait non seulement avoir la bombe, mais aussi être indépendant, justement sur la question énergétique, par rapport en particulier aux Américains, et il s'est lancé le nucléaire civil avec cette filière uranium naturel graphite gaz qui n'avait pas besoin d'uranium enrichi, c'est-à-dire qui n'avait pas besoin des Américains. Et donc ce mélange nucléaire civil, nucléaire militaire est venu vraiment la personnification ou l'emblème de la puissance française. Et à travers De Gaulle et ses successeurs, c'est resté, c'est-à-dire que aucun président n'a vraiment remis en cause ni le militaire ni le civil. Et même si Giscard d'Estaing a dit que de toute façon le nucléaire il l'utiliserait pas, il n'a pas arrêté les choses et Mitterrand a continué. Enfin bon. Et donc c'est devenu un symbole qui en plus a bien servi en parallèle à la décolonisation. C'est-à-dire que l'Empire français, comme l'Empire anglais d'ailleurs, n'existait plus, mais ces empires se maintenaient grâce à la puissance nucléaire. Et c'est vrai pour le Royaume-Uni, et c'est vrai pour la France.
Je comprends pas.
Ben si. la puissance impériale qui reposait beaucoup sur les colonies se maintient parce que nous, nous faisons partie des cinq grands.
Okay. Tu veux dire, on a substitué notre puissance qu'on avait à travers l'Empire à une puissance nucléaire.
Une puissance nucléaire qui manifeste
non, c'est la grandeur de la France.
Nous sommes, enfin, il faut entendre les discours, nous sommes une grande puissance. Tu rêves. Nous ne sommes pas une grande puissance. Si. Pourquoi? Parce que nous sommes au Conseil de sécurité. Il y a cinq pays. Les cinq pays, il y en a un qui n'est pas justifié même par les victoires, c'est la France. Et il y a les deux qui ne sont pas très justifiés par la puissance réelle, c'est la France et le Royaume-Uni. Mais ces deux-là tiennent absolument. Pour garder ça, il faut garder le nucléaire. Il y a un mélange de réalité ou d'économie ou d'industrie ou tout ça, et puis un mélange de légende, de vision de puissance. Nous sommes une grande puissance. Voilà. Et tant que cet état d'esprit d'illusion, de domination, on ne sait pas de quoi d'ailleurs, ça soutient beaucoup le nucléaire. Alors en plus, évidemment, si tu mets 60 milliards pour construire des réacteurs, c'est très bien pour les industriels qui vont faire ces réacteurs. Tu crées évidemment de l'emploi. 66 milliards, tu peux te payer pas mal d'emplois. Et ça devient des arguments. C'est bon pour l'industrie, c'est bon pour l'emploi. Mais peut-être que, je sais pas, les usines en chocolat aussi, hein, c'est bon. Et donc, il y a une mythologie, alors qui devient de plus en plus ridicule, parce qu'à l'époque, les années programme Messmer, d'un point de vue économique, si les réacteurs marchaient bien, c'était intéressant, par rapport au prix du pétrole, justement, les centrales. Et donc, l'argument économique était tout à fait défendable. Alors, moi, il ne fallait pas en faire trop, enfin, ce que j'ai déjà dit, mais il y avait une réalité économique. Maintenant, c'est l'inverse, puisqu'on sait très bien que le nucléaire est de plus en plus cher, et que l'EPR est plus cher que le précédent, et probablement l'EPR2, ils prétendent qu'ils vont mettre moins cher, mais tout le monde a des doutes. Mais en tout cas, le nucléaire est de plus en plus cher, et les concurrents qui n'existaient pas à l'époque, c'est ça la grande différence entre les deux périodes, c'est qu'à l'époque, notre arme, c'était les économies d'énergie, l'argument fort. Qui reste fort aujourd'hui, mais on nous dit, mais oui, d'accord, même si on économise l'énergie, il faut quand même de la production. Eh bien, pour la production d'électricité, par rapport à l'électricité, un, il faut faire d'abord des économies d'électricité, parce que c'est quand même le moyen le plus bon marché et le meilleur point de vue climat. Mais pour la production, l'éolien et le photovoltaïque, qui baissent à fond la caisse, un facteur 10 les 10 dernières années pour le photovoltaïque, et donc le nucléaire devient beaucoup trop cher, aucun intérêt économique. Et donc on se dit, mais qui, c'est le comte d'Andersen, le roi est nu, quoi. Qui va se dire, mais attendez, le roi est nu. C'est-à-dire tout ce qu'on nous raconte est complètement fantasmagorique, erroné, et alors que ça soit fantasmagorique, erroné et trop cher, mais dangereux. Et pour moi, le problème central actuellement, c'est qu'on est dans une zone de risque du fait du nucléaire qui est c'est la crise la plus importante depuis que le nucléaire s'est développé en France. Quoi. Donc il vaudrait mieux avoir une vraie conscience de cette situation et de discuter qu'est-ce qu'on fait. Tandis que là, non, on ne discute pas ce qu'on fait, on va faire du nucléaire.
Le roi nu décide.
Ben voilà. Et bon, c'est un peu inquiétant pour les citoyens et les citoyennes.
Ben c'est vrai que là, en t'écoutant, je me dis que la seule manière de sortir de cette fantasmagorie, ça va être un accident qui, d'un coup, va nous ramener à une certaine réalité de ce qu'est ce monde nucléaire. Quoi.
C'est même pas sûr. Ils sont tellement forts que il risque de nous expliquer que oui, certes, c'est un accident, mais cet accident va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes, et donc les réacteurs futurs seront encore plus sûrs.
Ah oui.
Je suis un peu pessimiste par moment.
D'accord. Effectivement, oui, la fantasmagorie peut prendre différentes formes. Merci beaucoup Bernard pour ce petit point d'histoire.
Le pain au chocolat était très bon, merci.
Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack Ailes et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.